Les États-Unis face à la tentation fasciste durant l'entre-deux-guerres par les ateliers de l'espoir. Les États-Unis n'ont pas échappé à l'influence des régimes fascistes durant l'entre-deux-guerres. Après la Première Guerre mondiale, le Ku Klux Klan renaît près de 50 ans après sa création. Le mouvement profite notamment du succès du film raciste The Birth of a Nation, qui défend l'idée d'une Amérique blanche excluant les Afro-Américains. En 1924, la loi Johnson-Reed limite fortement l'immigration. Elle vise particulièrement les Juifs et les populations venues d'Asie et d'Europe du Sud et de l'Est. L'Amérique doit rester américaine. Pour cela, il est nécessaire de poursuivre une politique d'immigration restreinte, déclare alors le président Calvin Coolidge. En octobre 29, la Grande Dépression frappe durement les États-Unis. Le krach boursier provoque l'effondrement des marchés et ruine des millions d'Américains. Les faillites se multiplient et le chômage explose jusqu'à toucher près d'un quart de la population active. 2 millions de personnes se retrouvent sans abri. La pauvreté et le désespoir gagnent le pays. En 1932, Franklin Roosevelt écrase Hoover à l'élection présidentielle et arrive à la Maison-Blanche. Pour faire face à la crise, Roosevelt met en place le New Deal, que l'on divise communément en deux grandes phases. La première phase du New Deal, lancée en 1933, réforme les banques et la monnaie. Elle met aussi en place des aides d'urgence et de grands programmes de travaux publics pour relancer l'économie. Le second New Deal, entre 1936 et 1938, insiste sur la redistribution des ressources et du pouvoir, la protection des syndicats et de nouveaux programmes d'aide sectorielle. Son action contre la crise renforce durablement la popularité de Roosevelt. Il est le seul président ayant remporté 4 élections présidentielles successives, entre 1932 et 1944. Mais la crise économique favorise aussi la progression des mouvements fascistes américains. Une partie des Américains ne comprennent pas les causes de la crise, ce qui ouvre la voie à des accusations ciblées. Les thèses antisémites trouvent alors un écho. Elles accusent les Juifs d'avoir orchestré la révolution bolchévique et de contrôler l'URSS. Roosevelt devient lui aussi une cible des antisémites. Il l'accuse d'incarner le judéo-bolchévisme. Henry Ford devient l'une des figures majeures de l'antisémitisme américain de l'entre-deux-guerres. Dès les années 20, il publie The International Jew, un ensemble de 4 volumes antisémites. Il soutiendra plus tard Hitler, aussi bien sur le plan financier qu'idéologique. On retrouve également Charles Coughlin, prêtre canadien installé dans le Michigan, chantre d'une Amérique blanche, chrétienne et nationaliste. Excellent orateur, il utilise la radio pour diffuser sa propagande. Son émission rassemble jusqu'à 30 millions d'auditeurs et d'auditrices, soit près d'un quart de la population américaine. Il y diffuse une propagande violente, blâmant les Juifs, les banquiers et les communistes. Il surnomme Roosevelt Rosenfeld et le New Deal le Jew Deal. Aux États-Unis, de nombreuses organisations structurées défendent l'idéologie nazie. En 1936, Adolf Hitler lui-même place Fritz Kuhn, un citoyen américain, à la tête du Bund germano-américain, dont le quartier général est établi à New York. L'organisation organise des défilés dans les grandes villes et recrute au sein des communautés allemandes. Le Bund achète aussi des terrains pour organiser des camps d'été destinés à endoctriner les enfants comme les adultes. Près de Manhattan, le Bund voit les choses en grand. Il établit une ville nazie sur Long Island, baptisée German Gardens. Face à cette menace, la presse commence à alerter l'opinion. En 1937, le Chicago Daily Times envoie 2 journalistes infiltrer le Bund. Leur reportage provoque une onde de choc. En 1938, un comité parlementaire sur les activités anti-américaines est créé. Le comité enquête sur les nazis, les fascistes et les communistes, considérés comme des menaces pour le pays. Cette même année, en réponse à un appel de Coughlin, le Front chrétien est fondé dans le but de renverser le gouvernement. L'organisation publie des journaux, organise des boycotts contre les commerces juifs ainsi que des défilés et des rassemblements. En 1940, plusieurs membres sont arrêtés à Brooklyn, accusés de complot. Les procès discréditent l'ensemble du mouvement et à la fin de l'année 1940, l'association n'est plus active. Le 20 février 1939, le Bund organise un grand rassemblement à New York, réunissant plus de 20 000 personnes. Il suscite une vive controverse aux États-Unis. Les nazis américains sont confrontés à des contre-manifestations, et l'événement est largement critiqué par les médias et par plusieurs dirigeants politiques. Après l'événement, le fisc américain découvre que Kuhn détourne l'argent du Bund à son profit. Le procureur du district de New York poursuit Kuhn et le 5 décembre 1939, il est condamné à 2 ans et demi de prison pour évasion fiscale et détournement de fonds. Le Bund ne se remettra pas de ce revers. Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt soutient l'effort de guerre et fournit une aide militaire aux Alliés. « Nous devons être le grand arsenal de la démocratie », déclare-t-il en 1940. Mais les mouvements fascistes américains défendent l'isolationnisme et refusent toute entrée en guerre contre l'Axe. Le comité America First mène la campagne contre l'entrée en guerre des États-Unis. L'un de ses membres emblématiques, l'aviateur Charles Lindbergh, affirme le 11 septembre 1941 « Les trois groupes les plus importants qui ont poussé ce pays vers la guerre sont les Britanniques, les Juifs et l'administration Roosevelt. Nous sommes au bord de la guerre, mais il n'est pas encore trop tard pour rester à l'écart. » Le 7 décembre 1941, l'attaque japonaise sur Pearl Harbor précipite les événements. Roosevelt est pris de court par cette attaque. Le Congrès déclare immédiatement la guerre au Japon. Le comité America First est dissous.